tonto.
Metal fait son show sur Bike FM. Soyez les bienvenus dans l'émission Check Meload qui chaque semaine vous propose un tour d'horizon à 360 degrés des sorties d'albums. Nous sommes le 16 avril et aujourd'hui c'est du lourd, du très lourd, de la qualité premium que je vais envoyer direct dans vos petites oreilles. Dans l'heure qui va suivre, vous entendrez des Guitar Heroes en formule solo ou en All-Star Band, des jeunes musiciens qui font revivre l'âge d'or du hard rock, des death metalleux qui n'hésitent pas à sortir les tripes, surtout quand ce ne sont pas les leurs, et des metalcoreux qui n'ont pas peur de fusionner les genres, un sacré programme qui se refermera bien sûr sur un air de reprise avec la rubrique Sortez Cover dans laquelle vous découvrirez une reprise du groupe Korn par le groupe de Deathcore Carnifex, un titre qui est paru il y a quelques jours. Alors amis métalleuses, amis métalleux, je déclare officiellement le lancement des hostilités de cette émission Check Me Load. Et pour commencer, eh bien je vous propose une salve de deux albums qui plairont particulièrement aux amateurs de métal technique et instrumental. Le premier, c'est Tokyo Jukebox 3, qui est signé du guitariste américain Marty Friedman, qui vit depuis de nombreuses années au Japon et qui, pour la troisième fois, rend hommage à son pays d'adoption à travers une série de revisites de chansons et de morceaux incontournables chez nos amis nippons. Alors, pour revenir un petit peu sur la carrière de Marty Friedman, à la fin des années 80, il sort deux albums avec le groupe Cacophony, dans lequel officie également le Guitar Hero Jason Baker, mais c'est en rejoignant en 90 les rangs du groupe Megadeth que Marty Friedman se fait connaître d'un large public métal. En recrutant ce jeune Guitar Hero aussi talentueux que créatif, Megadeth intègre un atout de poids. La preuve, durant la décennie qu'il officie en tant que guitariste soliste, eh bien le combo californien sort ses plus gros succès. Avec Marty Friedman à ses côtés, Dave Mustaine trouve en quelque sorte son cœur camette, et des albums tels que Rust in Peace paru en 90, Countdown to Extinction paru en 92 ou Euthanasia paru en 94 font office de véritables références en matière de trash. Marty Friedman quitte finalement Megadeth en 99, c'est à ce moment-là que notre Guitar Hero part s'installer au pays du soleil levant où il devient une véritable icône. Là-bas, on le voit fréquemment à la télévision et ses albums solo font un carton. Marty Friedman est tellement big in Japan qu'on lui demande de composer des génériques pour des animés ou pour des musiques de jeux vidéo comme pour Sonic par exemple. Et cet amour que lui porte le pop japonais, eh bien Marty Friedman le lui rend à travers cette série d'albums intitulée Tokyo Jukebox dont le volume 3 paraît aujourd'hui. Alors le premier était paru en 2009 et le deuxième en 2011 et le concept de Tokyo Jukebox, eh bien il est tout simple. Marty Friedman revisite à la sauce Guitar Hero et en mode instrumental le patrimoine musical japonais, des chansons que nous occidentaux ne connaissons généralement absolument pas, mais qui sont des tubes dans les karaokés japonais. Avec Tokyo Jukebox 3, notre guitariste apporte quelques petites nouveautés puisqu'on y trouve un morceau chanté, cette fois-ci, un morceau dont je vais reparler d'ici quelques instants, et puis on trouve aussi une compo originale à la gloire du pays, enregistrée à la demande du gouvernement japonais. Alors, malgré le fait que Friedman nous entraîne dans une culture qu'on connaît finalement très très peu, on se laisse très facilement happer par l'univers qu'il a su créer, un univers qui mêle à la fois les codes occidentaux et orientaux et qui crée une sorte de passerelle entre les deux cultures. Musicalement, les revisites du guitariste sont fines, ciselées. Elles sont bien sûr exécutées avec la maestria qu'on connaît chez Marty Friedman, même si, selon moi, le titre le plus intéressant, c'est celui qui comporte un chant, un morceau qui a pour titre The Perfect World, qui à l'origine était sorti en 2018 en tant que thème principal pour une série Netflix qui s'appelle The Beginning. Alors à ce moment-là, il était interprété par le chanteur Gene Kane Johnny du groupe Man With A Mission, et son succès fut tel à ce morceau que le jour de sa sortie, il s'est directement hissé au sommet du classement iTunes japonais. Alors sur Tokyo Jukebox 3, c'est une nouvelle interprétation signée Alpha Kyun que l'on retrouve. Alpha Kyun qui est l'une des plus grandes chanteuses japonaises de J-pop et qui fait ici concurrence aux plus grandes voix féminines du métal. Emily et Sharon de Nadal n'ont qu'à bien se tenir. On écoute The Perfect World de Marty Friedman en featuring avec Alpha Kyun. C'est un extrait de Tokyo Jukebox 3 paru aujourd'hui.
Yes.
C'était Marty Friedman sur Back FM dans l'émission Check Me Load avec le titre The Perfect World, interprété par la star de la chanson japonaise Alpha Kyun, un titre disponible sur l'album Tokyo Jukebox 3 paru aujourd'hui, sur lequel le guitar héros américain revisite avec talent le répertoire musical du Japon, son pays d'adoption depuis plus de 25 ans. Alors, outre le morceau qu'on vient d'écouter, Tokyo Jukebox 3 ne propose que des morceaux instrumentaux, hein, il faut le savoir, tout comme le nouvel album d'ailleurs, totalement inespéré, du All-Star Band Liquid Tension Experiment, qui paraît également aujourd'hui, un album intitulé LTE3, troisième album studio donc, hein, vous l'aurez deviné, qui était attendu des fans depuis 22 ans, et s'il est enfin dans les bacs, eh bien c'est grâce à la crise sanitaire qui a allégé drastiquement l'agenda respectif des prestigieux membres de la formation. Liquid Tension Experiment, qui a vu le jour du côté de New York à la fin des années 90, réunit en effet trois membres et ex-membres de Dream Theater, formation ô combien emblématique de la scène metal prog, et un membre de King Crimson, groupe ô combien emblématique de la scène rock progressive britannique. Le line-up de Liquid Tension Experiment se compose donc de Mike Portnoy à la batterie, de John Petrucci à la guitare, de Jordan Rudess au clavier, ça ce sont les trois Dream Theater, et de Tony Levin à la basse, qui est littéralement un dieu de la quatre cordes. Liquid Tension Experiment sort deux albums en 98 et 99. Le premier a tout simplement un titre éponyme, le second s'appelle Liquid Tension Experiment 2, et sur ces deux albums, eh bien, le super groupe développe un univers progressif à la fois rock et metal, teinté d'éléments jazz fusion. Ces deux albums qui vont rester dans les annales, bah, tant le quatuor va pousser loin les frontières établies de la musique prog. Il était donc fort dommage que nos musiciens décident si vite de stopper le projet, tout simplement du fait qu'ils soient presque tous membres du Dream Theater, qui était donc tout logiquement leur priorité à l'époque. Mais voilà, bah, depuis les lignes ont quand même bougé chez Dream Theater, puisque Mike Portnoy a quitté le groupe en 2010, et puis si nos quatre musiciens avaient jusqu'alors des plannings bien chargé, un certain Covid est venu stopper net leur activité. Du coup, eh bien, notre quatuor 4 étoiles a eu envie de profiter de ce temps libre pour se retrouver en studio, en scred hein, quand même, où ils ont composé et enregistré en seulement 2 semaines les 13 pièces musicales que regroupe LTE3. Et force est de constater que même après 22 ans, eh bien, l'alchimie entre nos musiciens est toujours là. Non seulement les compos sont extrêmement inspirées et bien écrites, mais en plus elles sont exécutées avec une telle aisance malgré leur complexité et leur technicité qu'il en ressort presque une certaine magie. Et si nos quatre musiciens sont tous des virtuoses, et bien celui qui se distingue du lot, c'est le bassiste hein, Tony Levin, qui a quand même 74 ans et qui reste un génie incontesté de cet instrument souvent méprisé du public, qui est pourtant essentiel puisque ce sont quand même la basse et la batterie qui tiennent toute la structure d'un morceau. Bref, avec LTE3, Liquid Tension Experiment signe un retour flamboyant. Alors certes, le fait qu'il soit composé exclusivement de titres instrumentaux, ça va en rebuter peut-être certains. Par contre, si vous êtes amateur de musique prog, de musique technique, vous allez kiffer. Voici d'ailleurs un extrait de cet excellent album avec le morceau The Passage of Time. The Passage of Time du supergroupe Liquid Tension Experiment. Il s'agit d'un extrait de l'album LTE3 paru aujourd'hui, 22 ans après son prédécesseur, Liquid Tension Experiment, qui, rappelons-le, réunit Mike Portnoy, John Petrucci, Jordan Rudess et Tony Levin. Vous écoutez l'émission Check Me Load sur Bike FM et nous allons maintenant nous intéresser à deux jeunes groupes qui font revivre l'âge d'or du hard rock. Le premier, c'est Greta Van Fleet, qui sort aujourd'hui son très attendu deuxième album intitulé The Battle at Garden's Gate. Alors, Greta Van Fleet, c'est l'histoire de trois frangins musiciens qui vivent dans le Michigan et qui, avec un pote, vont décider en 2012 de créer leur propre groupe. Ainsi, le line-up se compose de Josh, Jake et Sam Kiska au chant, à la guitare et à la basse, et de Danny Wagner à la batterie. Biberonnés au son de Wilson Pickett, Joe Cocker, Cream, The Yardbirds ou The Who, les frères Kiska trouvent naturellement leurs influences dans la musique des années 70 et notamment chez Led Zeppelin. D'ailleurs, la voix de John Kiska rappelle de façon incroyable celle de Robert Plant, et Greta Van Fleet est très rapidement qualifiée comme étant l'héritier direct du dirigeable. Je pense d'ailleurs que le groupe joue énormément de cette ressemblance. Alors, lorsque sort le morceau Highway Tunes en 2017, la presse s'enflamme littéralement pour le jeune combo qui va devenir la sensation du moment, et puis tout va s'enchaîner très vite avec la sortie, toujours en 2017, de deux EP, puis d'un véritable premier album intitulé Anthem of the Peaceful Army en 2018, sur lequel Greta Van Fleet semble cultiver cette ressemblance avec Led Zepp, tout en s'autorisant quand même quelques incursions en territoire grunge et progressif. Le disque est très réussi, notamment grâce à la fraîcheur des jeunes musiciens, mais on se pose alors la question de savoir si Greta Van Fleet arrivera enfin à se débarrasser de l'ombre du Zeppelin qui risque de devenir écrasante. Du coup, on attendait forcément le groupe au tournant avec la sortie aujourd'hui de ce deuxième album qui, je le rappelle, s'intitule The Battle at Garden's Gate. Alors, on va pas tourner autour du pot, le fantôme de Robert Plant hante toujours la musique de Greta Van Fleet, mais le combo s'affranchit quand même de façon plus nette de cette similarité, avec des compos qui sont plus élaborés, plus riches, dont certaines m'ont fait pas mal penser à Rush d'ailleurs. Le hard rock du groupe se fait de plus en plus progressif, de plus en plus mature, et offre une palette d'émotions de plus en plus large. Alors oui, les influences prédominent encore trop sur l'ensemble, mais on sent que petit à petit, Greta Van Fleet pose son univers et définit son identité. Et en tout cas, une chose est sûre, The Battle at Garden's Gate, c'est un album extrêmement réussi. En voici d'ailleurs un extrait avec le morceau Age of Machine. écoutez l'émission Check Me Load sur Back FM. À l'instant, c'était Age of Machine de Greta Van Fleet, le combo des frères Kiska mené par la voix incroyable de Josh qui sort aujourd'hui son deuxième album intitulé The Battle at Garden's Gate. Greta Van Fleet qu'on étiquette souvent de revival hard rock, tout comme le groupe The Vintage Caravan qui sort lui aussi ce 16 avril un nouvel album intitulé Monuments. Alors avec The Vintage Caravan, on quitte les États-Unis pour l'Islande puisque c'est là-bas que le groupe voit le jour en 2006 autour d'un duo formé par le chanteur-guitariste Oscar Logi et le batteur Guðjón Reynisson, dont j'ai probablement écorché le nom. Et il faut savoir qu'à l'époque, ces deux-là n'ont que 12 ans. Ils sont totalement émerveillés par la collection de disques de leurs parents et bah, les deux ados décident tout simplement, eux aussi, de monter leur propre groupe, hein, comme les Greta Van Fleet. Après un petit remaniement de line-up, le groupe qui évolue désormais sous forme de trio sort un premier album éponyme en 2011 qui va lui permettre de se forger une très belle réputation scénique et qui sera suivi un an plus tard d'un deuxième album intitulé Voyage qui paraît sur un des plus gros labels islandais. Malheureusement, le succès du disque ne dépasse pas les frontières du pays et bien peu de gens vont remarquer l'étonnante performance que ces tout jeunes rockers ont à offrir, du moins jusqu'à ce qu'en 2013, le label Nuclear Blast découvre l'énorme potentiel du combo et lui propose immédiatement un contrat. Grâce à cette signature, The Vintage Caravan voit enfin l'album Voyage distribué à travers toute l'Europe en 2014 et l'accueil qu'il reçoit est des plus enthousiastes. Ça n'est qu'un début puisque le groupe sortira ensuite deux pépites. Il y aura le lumineux Arrival en 2015 et l'étincelant Gateways en 2018, deux albums excellemment bons qui laissaient quand même craindre que le groupe soit déjà à son apogée malgré son jeune âge. Et malheureusement, à la découverte de Monuments, ces craintes se confirment un petit peu, même si, attention, ce cinquième album est très très loin d'être raté, il est même franchement réussi. Mais le problème, c'est qu'il joue exactement dans la même cour que son prédécesseur, et donc il offre plus cet effet waouh qu'ont eu les premiers albums. C'est ça qui est un petit peu dommage. Malgré tout, une fois cette toute petite déception passée, les 11 morceaux du disque s'écoutent avec un réel plaisir, d'autant que le frontman du groupe, Oscar Logi, est quand même un interprète incroyable, doublé d'un guitariste redoutable. Et si les influences de The Vintage Caravan sont clairement ancrées dans les années 70, eh bien la vision du hard rock que propose le trio islandais est tout à fait contemporaine. Loin de ressasser le passé, The Vintage Caravan regarde droit devant. Voici un extrait de Monuments avec le titre Whispers. du trio islandais The Vintage Caravan sur Back FM dans l'émission Check Me Load. Nos jeunes loups du Hard Rock Revival sortent aujourd'hui un nouvel album intitulé Monuments. Il est maintenant temps d'éloigner les âmes et oreilles sensibles d'œuvres radio, car voici maintenant la catégorie Death Metal, avec là encore deux sorties pour ce 16 avril. La première, elle était extrêmement attendue des amateurs de Brutal Death. Il s'agit bien évidemment du nouvel album des Cannibal Corpse, qui porte le doux titre de Violent Unimagined. Cannibal Corpse, qui est une institution en matière de Brutal Death, j'ai presque envie de dire que Cannibal Corpse est le Brutal Death, dont il est un des pionniers. Né à Buffalo, dans l'état de New York, en 88, le combo qui compte encore deux de ses membres fondateurs est mené depuis 1995 par le chanteur George Corpse Grinder Fisher. Fan de groupes de trash tels que Slayer ou Creator, mais aussi de formations death tels que Morbid Angel, les membres de Cannibal Corpse vont décider d'associer metal extrême et univers gore pour donner naissance à un death metal brutal et sans concession, proche du grindcore qu'on va donc nommer Brutal Death Metal. C'est en 90 que le combo va commencer à horrifier les comités de censure de parents américains à grands coups de chair sanguinolente, de viscères encore chaudes et de zombies mangeurs de cervelle. Pourtant, Eaten Back to Life ne sera qu'un amuse-bouche par rapport à la suite de la carrière du groupe, car si la pochette du premier album est quand même peu ragoûtante, et bien la pochette du suivant, le mythique Butcher at Birth paru en 91, est tout bonnement dégueulasse, elle est censurée à cause de sa violence, tout comme le sera celle de l'album suivant, Tomb of the Mutilated, qui arrive en 92, et tout ça, et bien ça donnera encore plus envie aux kids de s'intéresser à Cannibal Corpse, dont la discographie se compose désormais de 15 albums, car notre institution du Brutal Death dégaine aujourd'hui son nouveau méfait, intitulé Violence Unimagined, qui plaira, j'en suis persuadé, aux fans du combo, puisque le disque, eh bien, il s'inscrit dans la droite lignée de ses prédécesseurs. En fait, on pourrait tout à fait comparer les albums des Cannibal Corpse à des films gore ou à des slashers. On en connaît toutes les mécaniques, tous les ressorts, et pourtant on prend un malin plaisir à suivre le scénario macabre et à découvrir quel horrible sort attend les protagonistes du film. Plus leurs morts sont horribles et fortes en hémoglobine, et plus on est ravi. C'est un peu ce qu'on ressent en écoutant un disque de Cannibal Corpse, et Violence Unimagined ne fait pas exception à la règle. En voici la preuve en musique avec le morceau Inhuman Harvest. Another victim for complete control. Reaping final body parts. Surgical precision taken on the movie soul. Slug line of a blood down the chest. Removal of the organs. Cut the arteries and veins. Everything must go. Before the victim dies, put the body to dispose. Callous and super nefarious. Leaving no tracks, no evidence. They vanish, never to be seen again. Vanish from existence. De Cannibal Corpse sur les ondes de Back FM avec le titre Inhuman Harvest, extrait de Violence Unimagined, le 15e album du combo de Buffalo qui paraît aujourd'hui. On reste dans l'univers du death, mais avec des représentants de la jeune garde maintenant qui nous viennent tout droit de Hambourg en Allemagne. Le nom du groupe c'est Endseeker et le titre de son nouvel album paru ce jour, eh bien c'est Mount Carcass. Endseeker c'est un groupe plutôt récent puisqu'il a été formé en 2014 autour de musiciens issus de différentes formations death et black de la région de Hambourg. On trouve notamment des ex-membres de Buried in Black et de Mephistopheles. Et le groupe pratique un death metal à la suédoise, donc plutôt traditionnel, avec une petite pointe de thrash. Et on peut dire qu'en seulement 7 ans d'existence, eh bien, il a quand même fait du chemin puisqu'il est déjà à la tête d'une discographie composée d'un EP et 3 albums. Devenu en très peu de temps un des groupes death incontournables de la scène allemande, Endseeker dégaine aujourd'hui ce Mount Carcass qui s'appuie sur les bases posées par le premier album, Fleshhammer Prophecy, paru en 2017, tout en relevant le défi de frapper plus fort que The Harvest, l'étonnant deuxième opus du combo qui était paru en 2019. Tout comme ses deux prédécesseurs, Mount Carcass a été enregistré, produit, mixé et masterisé par Ike Friese au Chameleon Studios à Hambourg. Et dès le début de l'enregistrement, eh bien, Endseeker savait qu'il voulait un son plus brut et plus organique que The Harvest. Le combo avait d'ailleurs au préalable profité de la pandémie du Covid pour se poser, pour réfléchir à ce qu'il désirait pour ce troisième album. Et ce qui est ressorti de ces réflexions, c'est qu'il fallait se concentrer plus particulièrement sur la production, afin que le résultat garde un petit côté old school tout en apportant un petit peu de fraîcheur et un petit peu de nouveauté grâce à l'apport notamment de nouvelles influences. Endseeker est allé chercher chez des formations telles que Morbid Angel, Bolt Thrower, Slayer, Dissection ou Gorefest. Mount Carcass est donc un album relativement riche mais sans compromis. À noter que parmi les 9 titres qui composent le disque, on trouve tout à la fin une revisite très intéressante du thème principal du film culte New York 1997 de John Carpenter, que je diffuserai certainement dans la rubrique Sortez Cover d'une prochaine émission, mais aujourd'hui c'est une compo inédite que l'on va écouter. Voici le titre Count the Dead du groupe Endseeker. C'est un extrait de l'album Mount Carcass.
Ruined by machine.
Check Milot sur Bike FM. À l'instant, c'était le groupe de death allemand Endseeker avec le morceau Kun the Dead, extrait de l'album Moon Carcass qui paraît aujourd'hui. On reviendra à des sonorités death d'ici quelques minutes avec la rubrique Sortez Cover, mais avant, j'aimerais présenter une dernière nouveauté parue ce 16 avril. Il s'agit du cinquième album du groupe de metalcore britannique While She Sleeps, un groupe qui pèse de plus en plus lourd dans la balance de la scène metalcore internationale, et je pense que l'album Sleeps Society devrait rajouter encore du poids à cette notoriété grandissante. Originaire de Sheffield, tout comme Bring Me The Horizon, Why She Sleeps voit le jour en 2006. Alors depuis, il n'a connu qu'un seul changement de line-up avec l'arrivée en 2009 du chanteur Lawes Taylor. Après 3 EP dont le remarqué The North Stains For Nothing, paru en 2010, Why She Sleeps sort en 2012 son premier album intitulé This Is The Six. Le disque connaît un accueil extrêmement positif et cet engouement ne fera que s'amplifier au fil des sorties. Il faut dire que même si ses membres prétendent le contraire, la musique de Why She Sleeps a énormément évolué et s'est considérablement enrichie depuis ses débuts. Pour s'en rendre compte, il suffit de jeter une oreille à Sozat, paru en 2018, qui était jusqu'à ce jour son dernier album en date. Vous découvrirez alors un metalcore créatif à la fois puissant et mélodique, qui mélange brillamment des influences alternatives, new metal et punk hardcore, avec quelques touches électro. C'est d'ailleurs dans cette droite lignée que s'inscrit le petit dernier, Sleep Society. Mais malgré tout, on constate sur ce nouvel opus que While She Sleeps, qui a encore gagné en expérience et en maturité, maîtrise de mieux en mieux sa recette qui s'annonce d'ores et déjà explosive en live. Produit en collaboration avec Carl Brown, qui bosse avec le groupe depuis longtemps, mais qu'on connaît aussi pour son travail avec Bullet for My Valentine ou Bring Me The Horizon, l'album Sleep Society propose 11 titres inspirés et variés, à la croisée entre metalcore brutal et metal alterno mélodique et moderne, qui tape direct là où il faut. L'ensemble est ultra homogène. Alors on apprécie également les deux featuring que propose le disque avec Simon Neil de Biffy Clyro et Derek Whibley de Sum 41. Le seul petit bémol de Sleep Society réside peut-être dans le fait qu'il soit un petit peu trop prévisible quand on connaît le reste de la discographie du combo, mais voilà, pas de quoi remettre en doute la très belle qualité de ce cinquième album qui plaira, j'en suis sûr, autant aux fans de la première heure qu'aux derniers convertis. On écoute tout de suite While She Sleeps avec le morceau You Are All I Need, extrait de l'album Sleep Society.
Make
Sur Back FM, vous écoutez l'émission Check Melode avec à l'instant le titre You Are All I Need, extrait du 5e album du combo de Sheffield, album qui paraît aujourd'hui. Et bah ce sera tout pour la sélection de disques de ce 16 avril, puisqu'il est maintenant temps de refermer cette émission sur un air de reprise avec une revisite d'Escort d'un titre de Korn qui est signé du groupe californien Carnifex. Un titre qui est tout récent puisque le groupe l'a dévoilé vendredi dernier. Il s'agit d'une reprise de la chanson Dead Bodies Everywhere, parue à l'origine en 1998 sur l'album Follow the Leader que Carnifex revendique parmi ses influences majeures. Alors c'est précisément le 18 août 98 que paraît l'album Follow the Leader qui va surprendre énormément de fans. Korn, qui avait déjà largement contribué à poser les bases de ce qu'on appelle le new metal, va exploser de nouvelles portes en utilisant sur cet album énormément d'influences qui viennent du hip-hop et en partageant le micro sur deux ou trois featuring avec des rappeurs comme Ice Cube par exemple. Et ces sonorités hip-hop, eh bien Korn va les fusionner brillamment avec sa musique lourde, sombre et ses textes glauques. Alors une partie du public va être très déçue, pourtant Follow the Leader va faire un carton monumental avec plus de 14 millions d'exemplaires écoulés dans le monde. Je crois qu'il demeure encore à ce jour le plus gros succès commercial du groupe. Il est par exemple certifié 5 fois disque de platine aux États-Unis et en France, eh bien, l'album s'est hissé jusqu'à la 5e place du top album, ce qui est une prouesse pour des groupes de métal. Outre sa magnifique pochette qui est l'œuvre du dessinateur de comics Todd McFarlane, Follow the Leader a pour particularité, dans sa version CD, d'être composé de plusieurs plages vides. Alors le nombre varie selon les éditions, il y en avait soit 6, soit 12, c'était très variable. Et puis bah, ensuite, une fois qu'on avait passé toutes ces plages vides, on arrivait enfin au premier titre. Et cette fantaisie, en fait, elle a été voulue par le groupe, et en particulier par son chanteur Jonathan Davis, par superstition, puisque l'album contenait 13 chansons, et Jonathan Davis eh bien, ne voulait pas qu'il y ait 13 pistes. Alors, on trouve quelques classiques du groupe, sur Follow the Leader, comme Freak on the Leash ou God's Alive. On y trouve aussi l'émouvante chanson Justin, dédiée à un jeune fan du groupe atteint d'un cancer. Et puis on y trouve Dead Bodies Everywhere, qu'on va écouter dans quelques instants, en mode deathcore. Tout à l'heure, je parlais de texte glauque, on est en plein dedans avec cette chanson. C'est d'ailleurs peut-être de son expérience en tant qu'assistant du médecin légiste à la morgue que Jonathan Davis s'est inspiré pour écrire ce titre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'atmosphère du morceau ainsi que ses paroles, elles collent impeccablement à l'univers de Carnifex, dont voici tout de suite la revisite à la sauce d'Escort. Quant à nous, eh bien, on se donne rendez-vous, non pas la semaine prochaine, mais le 30 avril, hein, il n'y aura pas d'émission vendredi prochain. Donc, en attendant, stay metal, stay rock'n'roll, salut à tous !